Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Le Seigneur dit, mes pensées sont des pensées de paix et non d'affliction. Mes très chers frères, au gré des années, comme vous avez pu le remarquer, il arrive souvent qu'entre le 23e et le 24e dimanche après la Pentecôte, il y ait un certain nombre de dimanches intercalaires, et qui sont ceux qui n'ont pu être chaque année célébrés après l'Épiphanie. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas un hasard du calendrier, ce n'est pas non plus une nécessité que l'Église a eue de transférer des dimanches qui n'ont pas été dits après l'Épiphanie, après la Pentecôte. Tout ceci, bien sûr, relève, disons, de la technique du calendrier, mais tout ceci est voulu par le Saint-Esprit parce que c'est un symbole. C'est un symbole de la durée incertaine, en tout cas pour nous, bien entendu, pas pour Dieu, mais de la durée incertaine de notre vie, et donc de la vie du monde. Nous savons qu'il y a 24 dimanches, mais en réalité, il peut y en avoir 25, 26, 27. Nous ne savons pas exactement. Chaque année, c'est différent, plus ou moins. Donc c'est un symbole. C'est le symbole de la durée incertaine de notre vie, de la durée du monde. C'est en quelque sorte un temps surnuméraire qui nous est donné et qui est précieux, parce que ça signifie qu'entre le 23e et le 24e dimanche, bien souvent, Dieu nous donne un certain nombre de dimanches intercalaires pour que nous puissions profiter de ce temps surnuméraire pour faire pénitence et le mettre à profit. C'est un symbole donc de la miséricorde de Dieu qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive, comme dit l'Écriture. Nous avons plusieurs choses à voir en cette année, donc nous n'avons qu'un seul dimanche entre le 23e et le 24e dimanche. La semaine prochaine, ce sera le dernier dimanche de l'année. Pour aujourd'hui, c'est le sixième dimanche après l'Épiphanie. Nous avons plusieurs choses à voir avec l'aide du Saint-Esprit. Nous nous concentrerons aujourd'hui spécialement sur l'explication de l'oraison, parce que c'est une oraison extrêmement importante. Nous verrons ce que l'Église nous fait demander à Dieu et en quoi consiste le droit d'usage de la raison, puisqu'il s'agit aujourd'hui de la raison, du bon usage de la raison. Ensuite, en deuxième point, nous verrons aussi quelle est la maladie de la raison, la principale maladie de la raison. En deuxième point, nous verrons quelles sont les choses qui plaisent à Dieu, mais qui sont mentionnées dans l'oraison, auxquelles l'oraison fait allusion, et nous verrons aussi comment le chrétien est à même de les connaître. Et enfin, en troisième point, nous terminerons en voyant comment le chrétien peut réaliser la volonté de Dieu. Nous verrons quelques objections, quelques erreurs à ne pas commettre, et nous verrons que tout ceci, avec l'aide de Dieu, est très encourageant. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Écoutez ce que dit l'oraison, qui est très brève, mais extrêmement importante. Pressac sumus omnipotens Deus. Faites, Dieu Tout-Puissant, que, nous attachant toujours à des pensées raisonnables, nous soyons fidèles à suivre votre bon plaisir en nos actes comme en nos paroles. Faites, Dieu Tout-Puissant, que, nous attachant toujours à des pensées raisonnables, nous soyons fidèles à suivre votre bon plaisir en nos actes comme en nos paroles. Cette traduction que je viens de vous citer est un peu paraphrastique. Nous allons voir mot à mot cette oraison qui est extrêmement importante. Mes très chers frères, c'est une des plus belles oraisons de l'année liturgique, nous disent les commentateurs. C'est une des plus belles oraisons de l'année liturgique. Alors évidemment, non pas que les autres sont moins belles, mais disons que celle-ci est particulièrement belle. Ce sont toutes des joyaux, ce sont toutes des diamants, des pierres précieuses, et il y en a certaines qui brillent de mille feux, d'un million de feux, si l'on peut dire, et les autres brillent de 100 000 feux, si vous voulez. Mais elles sont toutes belles, bien entendu, mais celle-ci est particulièrement belle, et sa beauté tient non seulement à sa simplicité, mais aussi au fait que nous pouvons assez facilement la graver dans notre mémoire, parce qu'elle n'est pas très difficile, son vocabulaire est très simple, sa construction aussi est très simple. Et si nous pouvons l'intégrer dans notre mémoire et évidemment aussi la mettre dans nos œuvres, nous verrons que, en réalité, si nous comprenons cette oraison, nous comprenons toute la vie chrétienne. Nous devons, mes très chers frères, faire très attention à ce qu'elle nous dit, puisque c'est un abrégé de ce que nous devons savoir, de ce que nous devons demander, de ce que nous devons faire vis-à-vis de Dieu en tant que chrétiens. Écoutez un petit peu ce que nous vous fait dire cette oraison. Presta quesomus. Presta, faites, nous vous demandons, Dieu Tout-Puissant. Presta quesomus. Tout d'abord, presta. Ce sont ces petits mots qu'on retrouve assez souvent dans les oraisons. Ça, c'est un impératif qui signifie faites, accorder, réaliser, C'est une, en soi, ce n'est pas un mot très important, mais il faut savoir comment nous adressons à Dieu, de telle sorte que nous puissions parler au vrai Dieu. Si nous nous adressons mal à Dieu, déjà, ça serait un sacrilège, puisque nous lui manquerions de respect, mais aussi si, par malheur, il nous semblait que nous nous adressons sincèrement à Dieu, mais avec les mauvais mots, en fait, nous risquons fort bien d'avoir une réponse, d'avoir un exaucement par quelqu'un d'autre qui n'est pas Dieu, et peut-être par notre démon, ou par un démon, ou par notre tout simplement notre volonté propre. Donc, faisons très attention à la manière dont l'Église nous enseigne de nous adresser à Dieu. Nous lui disons presta, faites, accordez. Nous allons voir ce que ça, les implications un peu plus loin. Quesumus, toujours cette expression, ce mot, quesumus, qui signifie littéralement nous demandons, mais ce qui signifie en réalité en latin s'il vous plaît. Quesumus, queso, c'est pour une personne singulière, quesumus, c'est nous en tant que peuple. Nous demandons. Donc s'il vous plaît, quesumus. C'est-à-dire nous vous demandons, et si nous le demandons à Dieu, c'est une lapalissade, mais encore faut-il y penser, si nous le demandons à Dieu, c'est que nous sommes incapables de nous le procurer par nous-mêmes. Si nous demandons à Dieu, c'est donc que nous sommes incapables de nous le procurer par nous-mêmes d'une façon absolue. Parce que si nous étions, d'une certaine manière, capables de nous procurer par nous-mêmes ce que nous allons demander, alors nous adresser à Dieu serait ou bien une impertinence, parce que nous lui demanderions quelque chose que nous-mêmes nous pourrions obtenir par nos propres forces, ou alors, ça serait de la paresse, parce que nous lui demanderions, mais parce que nous n'aurions pas envie de le faire nous-mêmes. Donc, vous voyez l'importance de la façon de s'exprimer dans nos prières, dans les prières, dans les oraisons de l'Église, qui sont nos prières en réalité. Quesumus, c'est l'humilité de ceux qui ne peuvent rien par eux-mêmes. Souvenez-vous ce que dit notre Seigneur à ses apôtres dans le 15e chapitre de Saint Jean, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Nous savons tellement que sans lui, nous ne pouvons rien faire, que très humblement, nous lui disons « S'il vous plaît, faites ». Vous voyez, « Presta, quesumus ».« S'il vous plaît, quesumus, presta ». Faites, accordez, réalisez pour ceux qui ne peuvent rien par eux-mêmes et qui le savent et qui ne font pas semblant de pouvoir. Vous voyez ce que ça signifie déjà, ces deux premiers mots de l'oraison. Très important. Ensuite, à qui nous adressons-nous? Encore une fois, nous l'avons dit, chaque année, en fait, nous le disons assez souvent, mais il faut que, mes très chers frères, nous le dirons jusqu'à la fin de notre vie, si Dieu nous prête vie, pour que cela puisse se graver dans votre esprit. Omnipotens Deus, à qui nous adressons-nous? Nous nous adressons à Dieu sous divers vocables, et chaque fois dans les oraisons, ça conditionne un aspect de notre demande. Ici, nous demandons à l'Omnipotens Deus, c'est-à-dire au Dieu omnipotent, au Dieu tout-puissant. Pourquoi nous adressons-nous particulièrement aujourd'hui à ce Dieu tout-puissant? C'est parce que nous sommes les tout-impuissants, si l'on peut dire. C'est-à-dire que nous avons besoin de sa force toute-puissante, parce que nous sommes dépourvus de toute force. D'ailleurs, c'est dans une autre oraison, nous disons à Dieu, au Dieu qui nous voyait dépourvus de toute force, etc. Toutes les oraisons sont liées entre elles, se rejoignent les unes les autres, se recoupent les unes les autres, se renvoient les unes aux autres, de telle sorte que celui qui prie les oraisons des messes prie véritablement selon le cœur de Dieu, dans l'esprit de l'Église, et il sait que infailliblement il sera exaucé, parce qu'il prie la prière même que le Saint-Esprit a inspirée à l'Église pour que le peuple de Dieu s'adresse à Dieu. S'adresse à Dieu. Omnipotens Deus donc, mes très chers frères, nous nous adressons à celui qui est tout-puissant parce que nous confessons notre impuissance qui est radicale. Si notre impuissance est radicale, la toute-puissance de Dieu prend en quelque sorte tout son sens. Si l'homme est quand même puissant, Dieu, d'une certaine manière, est, sous un certain rapport, trop puissant. C'est un petit peu comme, ça serait un petit peu comme, enfin on peut prendre toutes sortes d'exemples, enfin ça serait un petit peu comme si nous nous adressions, par exemple, nous aurions besoin d'un coup de main, et nous nous adressons pas simplement à un ami qui peut nous donner un coup de main, mais nous nous adressons à quelqu'un dont le métier est d'être particulièrement fort, etc. En fait, il a trop de force, nous lui demandons simplement un coup de main pour déplacer un meuble, nous n'allons pas demander et payer un déménageur professionnel qui est capable de soulever un piano avec une main. Non, nous demandons simplement à un ami de nous aider à déplacer quelques cartons, l'autre bonhomme serait trop fort. Il ne s'agit pas de cela ici, mes très chers frères. Si nous nous adressons au Dieu tout-puissant, c'est que sa toute-puissance est l'indice, en quelque sorte, ou l'aune, si l'on peut dire, à laquelle nous mesurons le fait que nous sommes sans puissance. Alors vous allez dire, si nous sommes sans puissance, autant que Dieu fasse lui-même les choses. Non, parce que s'il est fort, c'est, s'il est connu comme celui qui est fort, c'est pour fortifier ceux qui ne sont pas forts. En lui-même, Dieu ne se dit pas « je suis tout puissant ». Dieu est Dieu. Dieu n'a pas besoin de manifester à lui-même sa propre force, parce que sinon il aurait besoin aussi de manifester à lui-même sa propre sagesse, sainteté, etc. Dieu se connaît totalement lui-même dans un repos éternel, dans son éternel présent. Pour nous, il se manifeste à nous comme le Tout-Puissant, et s'il se manifeste à nous comme le Tout-Puissant, c'est pour nous montrer que nous sommes ceux qui ne peuvent rien par eux-mêmes, et qu'il est notre force. Nous devons faire des choses. Puisqu'il y a quelque chose à faire, et c'est pour cela que nous avons été créés, il y a donc un but à atteindre, et il y a une force à posséder pour atteindre ce but. La chose à faire, c'est à nous que cela revient, et la force pour la faire, c'est Dieu qui nous la donne, puisqu'il est lui-même le Tout-Puissant. Nous devons donc comprendre, mes très chers frères, que nous nous adressons à Dieu, ici, en confessant notre impuissance, à lui qui est Tout-Puissant, pour obtenir la réalisation, l'exaucement de ce qui va suivre. Et ce qui va suivre, vous le savez, car vous écoutez les sermons depuis longtemps, commence par le mot « ut ». « Ut », ça signifie en latin « afin que » ou « que », enfin ça dépend. Mais c'est « afin que ».« Presta que sumus omnipotens deus »« ut », c'est-à-dire « s'il vous plaît Seigneur, Dieu Tout-Puissant, faites que » et maintenant nous allons le dire. « Faites que »« ut semper rationabilia meditantes » Faites que, tout d'abord, n'allons pas trop vite, mes très chers frères, nous avons tout notre temps. Ut semper rationibia meditantes. Faites que, toujours méditant les choses rationnelles. Alors, qu'est-ce que ça veut bien dire? Tout d'abord, n'allons pas trop vite, ne dites pas alors les choses rationnelles, qu'est-ce que c'est? Attendez. Semper d'abord, toujours. Ça a donné en français sempiternel, etc. Semper, toujours. Qu'est-ce que nous lui demandons à Dieu? Attention, maintenant nous sommes dans l'énoncé de ce que nous demandons à Dieu. Donc, maître Chaffin, vous n'avez pas d'autres possibilités. Il faut que vous écoutiez bien, parce que c'est cela que l'Église vous fait demander. Alors, vous allez dire, oui, mais moi, je ne suis pas très concerné, parce qu'aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Non, il se trouve, vous êtes chrétien, oui, vous êtes donc catholique, oui, vous êtes donc au 6e dimanche après l'Épiphanie, dimanche intercalaire entre le 23e et 24e cette année, donc c'est ce que vous demandez aujourd'hui à Dieu. Faites que toujours, voyez ce petit mot semper, il ne faut pas lire trop vite les oraisons. Les oraisons sont si brèves, si on les lit trop vite, si on les dit trop vite, en fait c'est comme si on mâchait ces mots, si vous me permettez l'expression, et donc on dit la moitié des choses qu'il faut dire, et surtout on ne se met pas dans une position pour pouvoir être exaucé. Si vous voulez être exaucé, sachez ce que vous demandez, parce que sinon l'exaucement va venir peut-être, et quand bien même il serait là, vous ne sauriez pas, vous voyez, c'est comme vous diriez comme un sauvage dans la jungle et qui a appris à dire en français donnez-moi 100 000 francs. Il voit un riche explorateur qui passe par là, il lui répète cette phrase, l'explorateur lui donne une liasse de billets et l'autre il le jette par terre en disant mais qu'est-ce que c'est, j'en ai rien à faire de son papier. Oui, mais il ne sait pas ce qu'il dit, donc il ne peut pas reconnaître l'exaucement. Et le type se retrouve pauvre alors qu'il a les mots mêmes pour être riche. Si j'ose utiliser cette expression, cette comparaison un peu ridicule. Donc, semper, qu'est-ce que ça veut dire? Toujours. Toujours, sans discontinuer. Nous demandons à quelque chose à Dieu, pas simplement d'une façon sporadique, nous ne demandons pas simplement « Seigneur, aidez-nous aujourd'hui parce que nous avons besoin de votre grâce pour faire quelque chose ». Nous disons « Seigneur, nous vous demandons, nous vous demandons quelque chose de générique, c'est-à-dire quelque chose qui devrait être vrai maintenant jusqu'à la fin de nos jours. Nous lui demandons donc que son exaucement porte sur toujours sans discontinuer. La vie chrétienne, mes très chers frères, c'est la vie organique du baptisé. On ne peut pas prendre des vacances de la vie chrétienne, parce que prendre des vacances de la vie chrétienne, c'est redevenir esclave du péché, c'est redevenir esclave du diable, et quand bien même, malheureusement cela peut arriver, mais quand bien même il nous semblerait que de notre volonté propre, nous redeviendrions esclaves du diable, ce serait en quelque sorte une illusion. Pourquoi? Parce que par le baptême, nous appartenons à Dieu. Donc, nous pouvons être un esclave marron qui s'enfuit et qui tombe sous la coupe d'un autre maître méchant. Mais il se trouve que, en réalité, nous ne serions pas vraiment son esclave, puisque nous sommes toujours l'esclave de Dieu. Donc, vous voyez, vous allez dire, alors, dans le fond, on ne peut même plus faire ce qu'on veut, on ne peut même plus être esclave du diable comme on veut. Et non, et tant mieux, d'une certaine manière. Alors, évidemment, si on persévère dans cette rébellion, ça, c'est autre chose. Mais nous ne sommes pas esclaves du diable, puisque nous avons été rachetés au prix du sang très précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous voyez, faites toujours, Seigneur, faites toujours, prévenez toute velléité de fuite, de telle sorte que ce que nous allons vous demander, nous le pratiquions constamment, cela soit beaucoup plus, cela soit une réalité constante. Faites que toujours. Donc, vous voyez, nous lui demandons donc quelque chose pour toute notre vie. Ne permettez pas que nous tombions dans l'illusion que nous ne vous appartenons pas, car nous vous appartenons, puisque ce n'est pas nous qui nous avons choisis, c'est vous qui nous avez choisis, qui nous avez rachetés par le sang même de votre propre Fils. Donc, toujours quoi ? Que nous soyons toujours quoi ? Toujours, Saint-Père, méditantes, c'est pas très difficile à comprendre, méditant. Que nous soyons toujours méditants. Alors, vous voyez, vous allez dire, oui, mais je demande plutôt, j'aimerais plutôt demander à Dieu que de faire toujours. Attendez, n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. Comment vous voulez faire tous les jours de votre vie ? D'ailleurs, il ne s'agit pas simplement de faire, puisque l'oraison nous dira aussi de dire. Mais comment vous voulez faire tous les jours de votre vie si vous ne méditez pas toujours ce que vous allez faire ? Vous allez être des écervelés qui allez vous jeter dans toutes sortes d'actions. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez faire exactement ce que dit saint Paul qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire battre l'air, courir à l'aventure. Beaucoup battent l'air et courent à l'aventure parce qu'ils ne méditent pas. Ils ne méditent pas quoi ? Alors attendez, d'abord méditer. Qu'est-ce que ça signifie méditer ? Ça signifie appliquer son esprit à connaître, à maîtriser et à intégrer dans sa forma mentis des vérités. On ne médite pas, quand on est chrétien, on ne médite pas sur des vanités, on ne médite pas sur des erreurs. Donc méditer, ça signifie en quelque sorte ruminer, beaucoup d'auteurs l'utilisent, cette expression, ce mot, ruminer, faire revenir constamment les mêmes choses pour que notre esprit, en quelque sorte, les mâche, les mastique, les digère et les intègre le plus parfaitement possible, autant que cela se peut, dans notre forma mentis. Vous voyez ? Faites que nous soyons toujours méditants. Que nous soyons toujours méditants. Donc la prochaine fois que vous verrez une vache assise dans un pré en train de ruminer ce qu'elle vient de manger, mes très chers frères, je ne dis pas ça pour plaisanter, pensez que c'est une image du chrétien qui est toujours méditant. Il médite, il rumine la parole de Dieu, nuit et jour, il rumine cette parole de Dieu. Alors il y a en français courant, le mot ruminer, c'est plutôt ruminer des mauvaises pensées, des mauvaises choses. Mais on peut ruminer le bien aussi. Et c'est ce que nous demandons à Dieu. Faites, Seigneur, tout-puissant, nous qui sommes incapables de ruminer à longueur de journée, à longueur de vie, les vérités, faites que nous devenions capables. Et si Dieu nous exaucera, c'est parce que nous en sommes capables. Mais par la chute, nous sommes devenus non seulement incapables, mais indignes. Faites, Dieu tout-puissant, que nous soyons toujours méditants. Vous voyez ce que nous lui demandons en premier ? Que nous soyons toujours méditants. Que nous soyons toujours méditants, quoi donc ? Des rationabilia. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, dans la traduction que j'ai sous les yeux, ils disent des pensées raisonnables. C'est vrai, évidemment, mais enfin, c'est trop peu. Rationabilia, c'est comment traduire en français ? C'est les choses qui appartiennent en propre à la rationabilité, c'est-à-dire à la raison. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il faut réfléchir aux mathématiques, compulser toutes les œuvres complètes de Thalès et tout ça ? Non, attendez, non, il n'y a pas que ça. Ça, c'est un aspect de la raison, mais c'est un aspect, disons, assez extérieur. Voyons un petit peu, quelles sont ces rationabilia, ces choses raisonnables ? Les choses qui appartiennent en propre à la raison. Qu'est-ce que la raison ? Alors, nous n'allons pas faire un cours de philosophie ici, de toute façon, ça, ce n'est pas le lieu. Disons simplement une comparaison. Prenons une comparaison, mes très chers frères. La raison peut être comparée à un œil, à l'œil. L'œil en bonne santé. L'œil, qu'est-ce que c'est ? Et si je vous pose la question, qu'est-ce que c'est qu'un œil ? Vous allez dire, c'est l'organe dans notre corps. Alors, nous en avons deux, mais nous nous concentrons sur un seul. L'exemple, c'est l'organe de la vue. Si nous ouvrons notre paupière, l'œil voit. Le propre de l'œil, c'est de voir. Donc les rationabilia, c'est toutes les choses, en quelque sorte, que l'œil, de la raison, est susceptible de contenter et de contempler et qu'elle doit contempler. Mais l'œil, mes très chers frères, si vous regardez bien comment fonctionne l'œil peut être ouvert, mais si c'est dans la nuit ou si c'est dans les ténèbres, vous ne voyez rien, il ne voit rien. Il est ouvert, mais en vain. Il peut être fermé, c'est vrai, que Dieu nous garde d'avoir l'œil de notre cœur fermé, mais il peut être ouvert dans un milieu où il lui manque quelque chose. Il lui manque quoi donc ? La lumière. Donc l'œil, vous voyez, mes très chers frères, ne peut réaliser sa raison d'être, qui est de servir à la vue, que par la lumière qui l'illumine. Donc l'œil présente une analogie particulière avec la raison, c'est-à-dire qu'il est fait pour voir, mais il ne peut voir que par quelque chose dont il dépend et dont il n'est pas maître, c'est-à-dire la lumière. La lumière éclaire toute chose, la lumière éclaire les pierres, elle éclaire les bêtes, elle éclaire le bois, elle éclaire toutes sortes de choses, toutes sortes de créatures tirent leur bien de la lumière. L'œil utilise cette lumière pour voir. La lumière, c'est Dieu, c'est la foi. L'œil, c'est notre raison. L'œil ne peut atteindre, ne peut réaliser sa raison d'être que par la lumière, qu'il ne maîtrise pas. L'âme, la raison, la partie rationnelle de l'âme, donc la raison, pour dire en bref, la raison ne peut fonctionner, ne peut atteindre son but que dans la mesure où elle est illuminée par la foi. Elle dépend, la raison, comme l'œil, elle dépend d'une cause extérieure, son fonctionnement propre dépend d'une cause extérieure à elle-même, mais qui lui est intimement liée. La lumière de la raison, c'est la foi. La lumière de la raison, c'est la foi. Sans la foi, la raison fonctionne mal. Ça ne veut pas dire que la raison ne peut pas fonctionner bien, mais elle fonctionne, mais elle n'atteint pas son but. Un œil qui est ouvert dans les ténèbres, on ne peut pas dire qu'il fonctionne mal. On dit qu'il lui manque quelque chose pour bien fonctionner. Mais un œil qui a un grain de poussière dedans, et alors qu'il y a la lumière, n'arrive pas à fonctionner bien. Pourquoi ? Parce qu'il est empêché par le grain de poussière de bien fonctionner. Il pleure, il saigne, que sais-je, que Dieu nous garde, mais il y a la lumière, mais ça ne lui sert pas grand-chose puisqu'il souffre. Un œil qui est sans grain de poussière, mais qui est dans les ténèbres, on peut dire qu'il est en parfaite santé, mais il ne fonctionne pas. La raison de ceux qui n'ont pas la foi, on ne peut pas dire qu'elle est forcément en mauvaise santé, mais elle ne fonctionne pas. Elle fonctionne sous un certain rapport, dans le sens où l'œil, lorsqu'il est dans les ténèbres, eh bien, il a sa cornée, les petites veines qui sont dedans, etc., toute la pupille, etc., tout fonctionne. Elle peut s'ouvrir, elle peut se fermer, elle peut se refermer, la paupière est là pour humecter, etc., les humeurs sont là pour laver l'œil. Tout fonctionne bien, il lui manque une seule chose, la lumière. Tel est l'homme, au mieux de sa forme, si j'ose dire, sans la foi. Il est capable de bien fonctionner, il est capable même d'arriver à un certain nombre de vérités, comme l'œil dans les ténèbres est capable de, grâce à un minuscule rayon de lumière ou une minuscule étincelle, de percevoir certaines choses. Je ne dis pas que l'œil est mort et qu'il est comme crevé. Il lui manque quelque chose de fondamental. Eh bien, l'homme qui utilise sa raison indépendamment de la foi, c'est comme un œil grand ouvert dans les ténèbres. Il lui manque quelque chose de fondamental. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, ça veut dire qu'il lui manque quelque chose de fondamental. L'homme qui, on se demande comment, mais par un bon usage de sa raison, parvient à la connaissance certaine d'un créateur, d'un Dieu, cet homme-là est dans le vrai parce qu'il utilise bien sa raison. Et à quoi ça lui sert ? Il va en enfer en croyant en Dieu. Ce n'est pas ce Dieu-là qui va le sauver. C'est le Dieu de l'Église qui sauve. Ce Dieu de l'Église, bien sûr, correspond en partie au concept de Dieu que l'homme, par sa raison seule, a pu se forger. Mais si l'on peut dire pour un chrétien, le chrétien ne passe pas son temps à dire « Je crois très fermement qu'il y a un Dieu qui existe et qui a tout créé. » Oui, je sais que Dieu existe et a tout créé. Maintenant, il faut qu'il me donne sa force, il faut qu'il me donne sa grâce, il faut qu'il me fasse croître dans l'amour de son Fils, il faut qu'il me glorifie. Bien sûr que Dieu existe, c'est la moindre des choses. Vous voyez, ce qui est un aboutissement d'un processus rationnel pour l'homme qui est dans les ténèbres, est le béaba qu'on enseigne aux enfants. Les petits-enfants, ils ne savent même pas encore parler quand ils sont baptisés, que déjà ils savent qu'il y a un Dieu, que Dieu existe, que Dieu est bon, que Dieu a tout créé. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses, vous voyez, mes très chers frères. Donc, la foi est la lumière de la raison. De telle sorte que sans la raison, sans la foi, la raison est dans les ténèbres. Elle existe, mais elle est dans les ténèbres. Les 10 commandements, en quoi consiste cette foi? On ne va pas dire tout ce qu'on pourrait dire, bien entendu, hein, mais disons, parlons des 10 commandements. Les 10 commandements qui nous sont enseignés par la religion constituent la loi naturelle, ce qu'on appelle la loi naturelle. C'est celle qui régit la normalité de l'homme. C'est-à-dire que l'homme qui n'observe pas les 10 commandements, tous les 10 commandements, pas certains, hein, pas certains à l'exclusion d'autres, l'homme qui n'observe pas les 10 commandements tout à la fois n'est pas normal. Alors vous allez dire, si on vous croit, ça en fait des gens qui ne sont pas normaux. Eh bien, vous l'avez dit, mes très chers frères, le monde est saturé de gens qui ne sont pas normaux. Et nous, sommes-nous normaux, nous les chrétiens? Est-ce que nous obéissons vraiment aux 10 commandements? C'est ça la question. Les 10 commandements constituent la loi naturelle, qui est celle qui régit la normalité de l'homme. Et en même temps, l'homme est fait pour Dieu, comme l'attestent le premier, le deuxième et le troisième commandement. La loi naturelle de l'homme, la loi qui est coextensive à sa nature, le mode d'emploi de l'humanité, si j'ose dire, stipule que l'homme est avant tout fait pour Dieu, fait pour adorer Dieu, fait pour aimer Dieu, et fait pour le respecter, et fait pour le célébrer à jour fixe. Et donc, c'est-à-dire à toute heure du jour et de la nuit, bien entendu, par extension. L'homme est anormal quand il ne vit pas exclusivement en fonction de la loi divine, telle que l'Église nous l'enseigne. Nous ne parlons pas de la loi divine telle qu'elle est d'une façon rémanente dans tout homme, de telle sorte que l'homme le plus corrompu, le plus coupable, le plus idéologiquement perverti, reste structuré par la nécessité de la loi naturelle, bien entendu. Mais à quoi cela lui sert-il? Ça lui sert à quelque chose de très fondamental et très important, ça lui sert à pouvoir se convertir, à pouvoir être converti par Dieu plus précisément. Et c'est déjà pas mal. Mais la plupart du temps, ça ne lui sert strictement à rien puisqu'il le combat. Tandis que nous, les chrétiens, nous devons prendre conscience que si nous observons les commandements de Dieu et tels que l'Église nous les enseigne, nous pouvons être normaux. Si nous nous abstenons de les observer, nous tombons dans la normalité. Alors vous allez dire, qu'est-ce que ça veut dire? Où est le lien avec les rationabilia? Ben justement, on peut dire que l'essentiel des choses rationnelles que nous demandons au Dieu Tout-Puissant, nous qui sommes impuissants, d'être toujours méditer, c'est essentiellement les 10 commandements. C'est aussi beaucoup d'autres choses encore, mais enfin les 10 commandements les résument toutes. Vous voyez, vous allez dire, c'est très prosaïque, je pensais que c'était plutôt... Vous pensiez quoi? Laissez tomber ces petites pensées que vous avez, c'est les 10 commandements. Faites, Seigneur mon Dieu, notre Dieu, que nous soyons tout le temps en train de méditer vos commandements, car c'est les seules choses qui permettent à l'homme d'être rationnel, d'être raisonnable, c'est-à-dire de se comporter conformément à sa raison d'être. Les 10 commandements sont à la raison ce que la lumière est à l'œil. Elle l'illumine et elle lui permet de réaliser sa raison d'être. La raison, c'est la partie... la raison, c'est le propre de la partie supérieure de l'âme. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cela, mais nous ne le dirons pas aujourd'hui parce que ça serait sortir du sujet, mais sachez bien qu'il y a plein de choses à dire là-dessus, et très importantes. La raison est donc le propre de la partie supérieure de l'âme. C'est elle qui ordonne toute chose et à laquelle s'ordonne la partie basse de l'homme, qu'on appelle le corps ou la chair. L'âme commande au corps. Voilà la normalité. Lorsque l'âme commande au corps. Mais l'âme ne peut commander au corps que dans la mesure où elle contemple sans cesse, où elle est constamment en train de méditer les choses raisonnables, c'est-à-dire les choses qui lui sont propres, afin de les inspirer ou de les guider, ou plutôt de les énoncer à la partie inférieure, c'est-à-dire les appétits, le corps, etc. Il n'y a pas que le corps, il y a aussi les appétits, de telle sorte que toutes ces choses inférieures se comportent d'une façon normale. Je ne dis pas d'une façon rationnelle, parce que cela pourrait nous induire en erreur, parce qu'on pourrait penser que se comporter d'une façon rationnelle, c'est se comporter d'une façon purement naturelle, donc à l'exclusion de la religion, tout ceci, et toutes ces extrapolations des philosophes des Lumières, ça n'a rien à voir avec l'enseignement, disons, de la philosophie catholique sur la raison. Non, il faut que l'âme, partie supérieure de l'homme, soit tout le temps en train de méditer les choses raisonnables, c'est-à-dire essentiellement les 10 commandements, si vous voulez, afin que les appétits, les sens, les passions, le corps, soient informés, c'est-à-dire soient formés de l'intérieur par ces choses raisonnables, ces concepts raisonnables, ces vérités, c'est-à-dire les commandements de Dieu. L'âme commande au corps, et c'est la normalité. Maintenant, lorsque les appétits, les passions, a fortiori le corps, commandent à l'âme, on est dans la normalité, on est dans le désordre. Et malheureusement, c'est le résultat de la chute. C'est pour cela que l'homme qui naît est spontanément soumis, il a toujours la raison, il a toujours le libre arbitre, bien entendu, mais toutes ces choses qui appartiennent à l'aspect élevé de l'homme, de l'âme, sont soumises aux choses inférieures. Dieu a puni la révolte de l'orgueil de l'homme par le fait qu'il est désormais soumis aux choses qui devraient plutôt lui être soumises. C'est le résultat de la chute. Nous demandons donc à Dieu aujourd'hui que, contemplant dans notre pensée, c'est-à-dire méditant constamment les choses raisonnables, c'est-à-dire les choses qui sont capables de provoquer cette ordonnation, d'organiser cette ordonnation dans notre être, et donc par extension l'ordonnation de tout ce qui nous regarde à l'extérieur, je pense notre famille, etc., et par extension tout le reste, en fonction des états, enfin bon bref, n'allons pas trop loin, restons pour les personnes ou les familles. Il se trouve que nous demandons à Dieu cela afin que nous puissions être normaux. Pourquoi est-ce que je disais tout à l'heure que cette oraison est extrêmement importante? Parce que c'est l'oraison qui, lorsqu'elle est exaucée, fait de nous des êtres normaux. Vous allez dire, c'est peu, on demande d'être des saints, d'être des combattants, d'être des chevaliers. Attendez, avant de dire des bêtises, demandez plutôt à Dieu d'être normaux, c'est déjà pas mal. Combien de gens sont anormaux? Tous ceux qui sont dans le désordre sont anormaux. Tous ceux qui obéissent à certains commandements de Dieu à l'exclusion d'autres sont anormaux. Tous ceux qui voudraient obéir aux commandements de Dieu et puis qui négligent de le faire sont anormaux. L'homme, lorsqu'il naît, naît anormal. Parce que ses passions priment sur son âme. Alors vous voyez, mes très chers frères, cette oraison est extrêmement importante parce qu'elle nous fait demander à Dieu d'intégrer les conditions de la normalité. Et nous verrons que cette normalité, eh bien, son ultime développement, aboutissement, c'est la vision béatifique. Descartes disait que le bon sens est ce qui est le plus également réparti entre tous les hommes. Eh bien, des penseurs, des théologiens, des philosophes catholiques très judicieux ont très judicieusement dit que c'est peut-être la chose la plus fausse qui se trouve chez Descartes. C'est inexact, c'est faux. Le bon sens n'est pas ce qui est le plus également réparti entre tous les hommes. Il suffit de s'en rendre compte. Il suffit de le constater pour le voir. Maintenant, il se trouve qu'il y a un abus de cette notion. Il y a eu un abus de la notion du bon sens par les pseudo-philosophes des Lumières. Il y a aussi un abus de cette notion de bon sens par ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qui est à peu près la même chose que les Lumières autrefois, sauf qu'on est dans un autre contexte, la dissidence. La dissidence abuse complètement de cette notion de bon sens, qui est une vraie notion, qui est importante, mais elle abuse complètement. On voit des gens qui vivent dans une totale anormalité, c'est-à-dire qui blasphèment, qui sont absolument étrangers à l'Église, qui sont étrangers à Dieu, étrangers à son amour, étrangers à ses commandements, et qui vous parlent de bon sens. Ils déraisonnent ces gens-là. Ils ont raison, sous un certain rapport, de parler du bon sens, mais ils ne savent pas ce que c'est. Si vous étiez dans votre bon sens, vous seriez catholique. Si vous étiez dans votre bon sens, vous seriez un catholique qui craint Dieu et qui observe ses commandements, puisque c'est là le tout de l'homme, comme dit Salomon. Vous voyez, le bon sens, on abuse beaucoup de cette notion. L'homme qui ne craint pas Dieu est, selon l'Écriture, un insensé qui court à sa perte. Car on ne peut pas être insensé sans courir à sa perte. Il n'y a pas d'insensés qui sont gentils, qui sont dans une sorte d'ignorance invincible et que Dieu, dont Dieu voit la bonté, etc. Et puis auquel Dieu donne quand même la béatitude éternelle parce qu'il ne veut pas être aussi méchant. Qu'est-ce que c'est? Attention. L'insensé court à sa perte. L'insensé, c'est celui qui ne craint pas Dieu. Le Dieu de l'Église, qui ne craint pas Dieu par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. L'insensé court à sa perte. La maladie de la raison, mes très chers frères, qui rend les hommes insensés et qui peut nous rendre aussi insensés, nous les chrétiens, la maladie de la raison, qu'est-ce que c'est? C'est l'orgueil. C'est pas une découverte, c'est ce que disent tous les théologiens. La maladie de la raison, c'est l'orgueil. Je veux dire, mais non, la maladie de la raison, c'est l'erreur, c'est le manque de bon sens, c'est que sais-je, c'est l'idéologie, etc. C'est pas totalement faux ce que vous dites, mais fondamentalement, tout ceci vient de l'orgueil. C'est dire s'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent avoir du bon sens, dont la raison est totalement malade. La maladie de la raison, c'est l'orgueil. Alors vous allez dire, en quoi consiste l'orgueil? Excellente question, je vais y répondre. Être orgueilleux, c'est être déraisonnable. L'orgueil, c'est fondamentalement, et ça c'est notre Père qui nous l'enseigne, croire en ses propres forces. Croire en ses propres forces pour être sauvé, mais puisqu'on ne peut pas être sauvé comme ça in abstracto, on est sauvé en faisant des choses. Donc croire en ses propres forces pour faire les œuvres qui plaisent à Dieu, mais quelles sont ces œuvres qui plaisent à Dieu, sinon les œuvres propres de la raison, les œuvres propres de l'homme. Être orgueilleux, c'est croire en ses propres forces à tous les niveaux. Vous allez dire, oui, mais là, c'est simplement le niveau théologique, c'est le niveau de la religion. Pour être un bonhomme politique, on n'a pas besoin de... il faut au contraire croire en ses propres forces, il faut croire en soi, parce que sinon... que les hommes politiques, de droite ou de gauche, croient éperdument en eux-mêmes, ça c'est une évidence. Maintenant, qu'ils ne soient pas orgueilleux, ça c'est une autre chose. Vous voyez, mes très chers frères, toute la civilisation catholique traditionnelle n'est qu'un vaste témoignage, plus ou moins parfait, c'est vrai, mais enfin, un vaste témoignage de l'hommage rendu à Dieu par l'homme et la confession que sans Dieu, il ne peut rien faire. Si vous permettez de parler un petit peu comme on parle vulgairement, les grandes cathédrales, les magnifiques choses que l'on voit, les grands monuments dont l'Église, à la gloire de l'Église, et puis donc à la gloire aussi de nos rois, etc., qui sont les fils aînés de l'Église, tout ceci, qu'est-ce que c'est? Bon, on peut y voir un peu d'orgueil, bien entendu, il y a un petit peu de ça, bien sûr, mais fondamentalement, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on en voit encore aujourd'hui? Non, on n'en voit même pas. On n'en voit même pas un équivalent, on n'en voit même pas l'ombre. Pourquoi? Parce que loin d'être l'exaltation de l'homme, c'est l'exaltation de Dieu. C'est l'exaltation du Dieu sans lequel l'homme ne peut rien. Enlever Dieu, il n'y a plus de monument grandiose, si l'on peut dire. Regardez, alors je ne vais pas tomber dans la comparaison culturelle parce que ça serait un peu superficiel, mais regardez les horreurs que l'on fait aujourd'hui. Quand elles ne sont pas absolument moches, si j'ose dire, ou absolument laides, pour parler plus précisément, elles ne tiennent pas très longtemps parce qu'elles sont faites d'une manière qui est absolument avec des matériaux, des choses, elles sont faites de telle sorte qu'elles s'autodétruisent très rapidement. Regardez les anciens monuments, ils durent. Vous voyez, ils ne sont pas faits pareil. Alors, n'entrons pas dans ces questions culturelles. Regardez simplement, lorsque l'homme confesse que sans Dieu il ne peut rien, curieusement, il fait des choses qui, en quelque sorte, presque durent à travers les âges, presque jusqu'à la fin du monde. Lorsque l'homme veut montrer sa grandeur propre, il n'est qu'un misérable insensé, un être très déraisonnable, qui n'est même pas capable d'arriver, je ne dis pas à la cheville, mais au doigt de pied, de l'homme qui craint Dieu et qui confesse qu'il ne peut rien sans Dieu. Confessez que vous ne pouvez rien sans Dieu, vous acquérez la force du Dieu Tout-Puissant. Croyez infinitésimalement que vous pouvez faire quelque chose par vous-même, vous êtes livré à vous-même, à vos propres forces, c'est-à-dire au néant, et vous êtes un insensé. Vous êtes déraisonnable. Or, l'oraison d'aujourd'hui, je vous le rappelle, nous ne sommes pas en train de dévier du sujet, l'oraison d'aujourd'hui nous fait demander à Dieu que nous soyons constamment, Saint-Père, en train de méditer les choses raisonnables. La chose raisonnable par excellence, nous avons dit que c'était les 10 commandements, nous avons dit que c'était aussi autre chose. La chose raisonnable par excellence que l'homme chrétien, c'est-à-dire l'homme, doit avoir constamment à l'esprit, c'est que sans Dieu il ne peut rien faire, c'est que l'orgueil consiste à croire en ses propres forces. Voilà le contenu des choses raisonnables que nous devons, voilà les choses raisonnables que nous devons être sans cesse, avec l'aide de Dieu, constamment en train de méditer. L'homme qui s'aime lui-même jusqu'au mépris de Dieu est déraisonnable. L'homme qui aime Dieu jusqu'au mépris de soi-même est raisonnable. Seigneur Dieu, faites que nous soyons toujours en train de méditer ces choses raisonnables. Faites que, méditant constamment les choses raisonnables, c'était un moyen. Nous, exequamur, nous réalisions, quotibisun placita et dictis et factis. Nous réalisions, c'était un moyen, ce que nous demandions. C'était un moyen. C'était le moyen, je le dis d'une façon très rapide, de réaliser les choses qui plaisent à Dieu. Les choses qui sont agréables, c'est-à-dire les choses qu'il agrée, qu'est-ce que c'est? Ce sont les choses raisonnables. Et donc, si nous voulions être un tout petit peu pédants, nous dirions que les placita ici, sont les rationabilia du début de l'oraison. Enfin bon, je ne veux pas avoir l'air pédant. Il se trouve que les choses qui plaisent à Dieu, ce sont exactement les choses raisonnables que nous demandons à Dieu d'être constamment en train de méditer. Et ces choses raisonnables, nous savons que ce sont les choses qui sont le propre de l'homme. Les choses qui sont agréables à Dieu, c'est-à-dire que Dieu agrée, ce sont les choses raisonnables, les choses qui sont l'objet de la méditation de l'homme sage, c'est-à-dire du chrétien. Nous demandons donc ici, nous exprimons à Dieu de pouvoir atteindre ce but. C'est un but d'ailleurs intermédiaire. Exclure tout ce qui déplaît à Dieu, d'une façon absolue de notre vie, mes très chers frères, c'est cela, mettre en pratique les choses raisonnables que nous méditons sans cesse avec l'aide de Dieu. Vous allez dire, mais comment cela peut-il se faire? Est-ce qu'il faudrait que je prenne un papier, un crayon, et puis que je rationalise ma vie? Vous n'avez rien compris. C'est décourageant de voir qu'on peut être si loin de... si mal comprendre. Non, qu'est-ce que ça signifie? Ça, c'est se comporter comme selon la sagesse du monde, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Non, comment exclure tout ce qui déplaît à Dieu de notre vie? Tout simplement en se jugeant soi-même. Il ne s'agit pas d'organiser sa vie comme ces gens qui se font soi-même tout seuls et puis qui rationalisent leur vie pour pouvoir faire le maximum durant leur vie. Mais non, tout ça c'est de l'orgueil, c'est de la déraison. Il faut se juger soi-même à l'aune de Dieu. Il faut méditer les 10 commandements et voir tout ce qui en nous est une transgression, dans nos actions, est une transgression des 10 commandements. Voilà comment se juger soi-même, voilà comment exclure tout ce qui déplaît à Dieu, voilà donc comment faire en sorte de ne réaliser que ce qui plaît à Dieu, c'est-à-dire ce qui est l'objet de nos méditations rationnelles. Nous avons dit que l'orgueil était la maladie de la raison, était l'orgueil. Eh bien, la santé de la raison, nous disent les pères, et ça vous l'avez compris, c'est l'humilité, évidemment. Écoutez ce que nous dit un auteur spirituel. Si nous sommes bien persuadés que tout ce que nous avons de bon vient de Dieu, ne devons-nous pas, au lieu de nous élever de ses faveurs, nous humilier encore davantage comme étant obligés à une plus grande reconnaissance? Voilà un comportement rationnel. Vous allez dire, oui, mais si je parle à mes amis plutôt catholiques politiques, ils vont rire, ils vont dire, oui, mais tout ça c'est des trucs mystiques, pas tellement en réalité. Pas tellement, nous y reviendrons. Pas tellement, et même pas du tout. Enfin oui, si vous voulez, mais c'est tout ce qui importe en réalité. Mais en réalité, vu comme c'est formulé, ce n'est pas vrai. Vous voyez, plus nous méditons sur Dieu, plus nous méditons sur nos devoirs vis-à-vis de Dieu, plus nous méditons dans un esprit d'humilité, plus nous sommes rationnels, c'est-à-dire que nous comprenons et nous confessons que nous ne pouvons rien, mais que nous pouvons tout par Dieu, plus, véritablement, nous devenons raisonnables et nous devenons forts. L'orgueil, nous dit l'Écriture, précède la chute. Or, il se trouve que dans l'Évangile d'aujourd'hui, notre Seigneur parle du grain de sénevé. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénevé qu'un homme prend et sème dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais lorsqu'elle a poussé, elle est plus grande que toutes les autres plantes et elle devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent habiter sur ses branches. Les auteurs nous disent que cette semence de ce grain de sénevé, qui est tout petit, qui est minuscule, fait référence à l'humilité. Plus nous nous humilions devant Dieu, plus nous sommes capables de nous élever à l'union avec ce Dieu qui est tout et qui est omnipotent et omniscient. Les choses rationnelles dont nous parlions plus tôt ne sont les choses qui plaisent à Dieu que par l'humilité. Tout ce qui exalte l'homme au détriment de Dieu relève de ce qu'on appelle en latin l'incipientia, c'est-à-dire la folie. Il est déraisonnable d'être orgueilleux, il est très raisonnable d'être humble. Parce que le bon sens nous dit que si celui qui a été créé par celui qui peut tout, si celui qui ne peut rien a été créé par celui qui peut tout, le bon sens, dis-je, veut que si celui qui ne peut rien réclame la force de celui qui peut tout, alors celui qui peut rien peut tout. C'est ça le bon sens. Je ne vois absolument pas comment on peut utiliser cette expression de bon sens autrement que comme cela. Nous qui ne pouvons rien, le bon sens nous demande, exige de nous que nous nous tournions vers Dieu qui peut tout. Si nous sommes orgueilleux, nous sommes déraisonnables, c'est-à-dire que nous allons nous croire en nos propres forces et vouloir agir, éventuellement pour Dieu, mais pour un Dieu extérieur à nous. Vous voyez, un Dieu qui entre dans nos calculs, mais qui n'est pas le Dieu qui est l'âme de notre âme. Tout ce qui exalte l'homme au détriment de Dieu relève de la folie, de la déraison et du manque de bon sens. Il y aurait bien des choses à dire, mes très chers frères, nous ne les dirons pas, mais je pense que vous pensez à ce que je pense. Et enfin, concerne le dernier verbe, exequamur. Afin que, méditant constamment les choses rationnelles, les choses qui vous plaisent, nous puissions, exequamur, nous puissions mener à leur terme, nous puissions réaliser. Voilà ce que nous demandons à Dieu. Méditer sans cesse les choses rationnelles n'était que le moyen d'atteindre un but qui est de réaliser les choses méditées, les choses rationnelles. La glorification de Dieu, car il s'agit bien de cela, s'opère uniquement, explicitement et exclusivement par l'accomplissement de sa volonté qui se manifeste, et vient d'une façon très prosaïque, par les devoirs d'État. On ne peut pas glorifier Dieu quand on fait quelque chose qui sort de son devoir d'État. Alors vous allez dire, il recommence. Tant qu'il y aura cette tentation, mes très chers frères, pour l'homme, et c'est une tentation commune, courante, eh bien, il faudra que l'Église nous rappelle ceci. Nous ne pouvons, chacun, autant que nous sommes, nous ne pouvons glorifier Dieu que par l'accomplissement de nos divers devoirs d'État. Sortir de nos devoirs d'État, c'est se rendre incapable de glorifier Dieu. Alors évidemment, on peut avoir l'impression qu'on glorifie Dieu. Un petit peu comme cet exemple que je prends souvent, le petit garçon qui va cueillir dans une plate-bande interdite des fleurs et qui les donne à sa maman. Qu'est-ce que va faire sa maman? Sa maman va lui donner une fessée. Pourquoi? Parce qu'il a cueilli des fleurs. Oui, mais c'était pour sa maman. Oui, mais c'était interdit. La fin ne justifie pas les moyens. Il a voulu faire plaisir à sa maman en péchant. Il sera puni. Le chrétien a voulu glorifier Dieu en faisant quelque chose qui ne relève pas de son devoir d'État. Il sera puni. Oui, mais c'était pour la plus grande gloire de Dieu. Eh bien, vous serez puni parce que ce n'était pas à vous de le faire. Oui, mais si je ne le fais pas, qui le fera? Peut-être parce que c'est parce que vous le faites que la personne qui devrait le faire ne le fait pas. Parce que vous occupez la place. Méditez un peu à ça aussi, vous, insensés et orgueilleux. Exequamur, afin que nous menions à leur terme, ces choses que nous devons, rationnelles, que nous devons constamment méditer et qui plaisent à Dieu. Elles plaisent à Dieu et nous savons quelles elles sont parce qu'elles se polarisent par les divers devoirs d'État. Comment réaliser, comment faire parvenir à leur terme ces choses rationnelles qui se manifestent en réalité par l'accomplissement des commandements de Dieu dans les divers devoirs d'État qui sont les nôtres, chacun tant que nous sommes, eh bien, elles se réalisent de deux façons. Dictis et factis, par nos paroles, dictis, et par nos actions, factis, par nos faits. En parole, c'est-à-dire par la profession de foi. Une parole qui ne procède pas de l'ordonnation, c'est-à-dire qui ne procède pas de l'ordre, mes très chers frères, est une parole insensée, et elle est contraire au grain de Senevé. Vous voyez tous ces gens qui s'imaginent être de grands prédicateurs, de grands semeurs de semences, ces gens qui font de l'apostolat, qui sèment, qu'est-ce qu'ils font? Ils ressemblent à ces gens qui jettent du grain et qui s'imaginent pouvoir attendre une récolte. Mais il y a deux façons de semer, de jeter le grain. Vous prenez le grain dans votre besace, vous le jetez dans la bonne terre, parce que vous êtes un semeur, le grain tombe en terre, porte du fruit. Vous avez la même besace, la même main, le même geste. Vous faites la même mesure de grain, vous la jetez devant vous dans une basse-cour, ce grain est dévoré par les poulets. Pourquoi? Parce que vous l'avez fait grosso modo de la même manière, mais dans un autre contexte. Vous vous preniez pour un semeur, en réalité vous ne faites que nourrir les oiseaux, vous ne faites que nourrir la basse-cour. Vous voyez? Et la basse-cour ici, c'est les démons qui mangent les graines, comme dit notre Seigneur. Tout ce travail, tous ces travaux faits pour jeter le bon grain, comme on dit, par l'apostolat, désordonné, etc., est entièrement dévoré par le démon. Et quand il porte du fruit, le démon s'y accroche tellement que ce sont des fruits pourris. Regardez les convertis de tout ça, regardez les convertis, regardez le faciès de la nouvelle opinion publique. Ce sont des demi-catholiques, ce sont des gens qui injurient la religion, ce sont des gens qui sont, en fait ce sont des protestants mentaux, tous ces gens-là. Ce sont des gens qui, je ne dis pas qu'il n'y a pas parfois un peu de fruit, mais c'est un fruit qui est gangrené, c'est un fruit qui est rempli de mildiou, c'est un fruit qui est rempli de toutes sortes de bactéries, de bêtes. C'est un fruit qui, à peine arrivé à maturité, est déjà rongé par les bêtes. Quel dommage! Quel dommage! Quel dommage! Quel dommage! Quel manque de bon sens! Quelle folie! Quel manque de raison, de rationalité! Et je le dis en pleurant, mes très chers frères, je ne le dis pas en ricanant du tout, je le dis en pleurant. En parole, donc, mes très chers frères, ne semons pas, ne jetons pas le grain n'importe comment. Une parole qui ne procède pas de l'ordre est une parole insensée, quand bien même elle serait les paroles de l'Écriture sainte. Car la parole de l'Écriture sainte, eh bien, le diable aussi est capable de l'utiliser, et vous savez qu'il a utilisé la parole même de Dieu pour essayer d'induire notre Seigneur Jésus-Christ en tentation. Donc vous voyez, ne dites pas « je ne dis que les mots de l'Église ». Le diable aussi, il a voulu faire tomber le Messie avec les mots mêmes de Dieu, les propres paroles du Fils éternel de Dieu. Donc, que ces choses raisonnables que nous devons être tout le temps méditants, nous les menions à leur terme par nos paroles, c'est-à-dire par tout ce qui relève de la parole, c'est-à-dire l'enseignement des enfants pour les parents, l'enseignement des fidèles pour les prêtres, etc., chacun selon leur devoir, bien entendu, et par nos actions, factices, les actions, les œuvres sans lesquelles la foi est morte, évidemment. Si nous disons que nous avons la foi, si nous méditons les choses rationnelles qui viennent de la foi, si notre œil est illuminé par la lumière qui vient de dehors et qu'il ne guide pas le pied pour ne pas tomber dans une fosse, à quoi sert-il à l'œil d'être en parfaite santé et de voir grâce à la lumière, puisqu'il laisse le pied tomber dans une fosse? Que nos actions, mes très chers frères, témoignent de la vie de notre foi, de notre foi vive, et non pas de notre foi morte. Alors vous allez dire, tout ceci est bien prosaïque. Tout ceci est prosaïque, parce que qu'est-ce que vous pensez? Un sermon, c'est pas un exercice de rhétorique romantique où on lance tout le monde à la croisade, et puis on se termine, tout ceci se termine par au PMU local, après la messe, pour boire une bière entre potes et parler et refaire le monde. Tout ceci est prosaïque, ben oui, réjouissez-vous-en, tout ceci est praticable. Tout ceci est contraire à l'ambition qu'un homme peut avoir lorsqu'il croit en lui-même. Oui, nous parlions de la nécessaire ambition et orgueil que doit avoir l'homme politique pour réaliser des choses. Eh bien, mes très chers frères, Souvent, on dit effectivement, si on vous écoute, on ne fait plus rien en politique, il n'y a plus d'action, il n'y a plus de militants. Regardez le faciès, encore une fois, de l'action. Regardez qu'est-ce que vous faites d'autre. Vous ne faites que des vidéos, vous faites des posts, et vous imaginez que mettre un pouce bleu ou relayer quelque chose sur l'Internet, c'est militer, c'est quoi? C'est faire de l'apostolat? De qui vous moquez-vous? Enfin, vous vous moquez de vous, mes très chers amis. Vous vous moquez de vous-même. Vous vous gargarisez. Vous êtes comme un malade qui se gargarisera avec de l'acide chlorhydrique. C'est malin de faire ça. Il va tomber encore plus malade. Contemplez l'impuissance absolue dans laquelle sont toutes les actions qui se prétendent catholiques. Regardez. Alors, vous avez dit, il y a telle ou telle chose qui peuvent se faire quand même. Oui, bien entendu, il y a toujours des exceptions, mais regardez. Regardez et comprenez, mes très chers frères. Soyez rationnels, soyez raisonnables. Méditez constamment les choses raisonnables. Ayez du bon sens. Et vous verrez, mes très chers frères, que vous êtes des insensés, que vous avez été, que vous aurez été des insensés jusque-là, et que vous, une fois devenus raisonnables, vous verrez que avec la raison vient la force. Et pas n'importe quelle force, la force du Dieu omnipotens, omnipotens Deus. Tout ceci, mes très chers frères, dans le contexte, et je termine par ces mots, dans le contexte de la colère qui vient. Vous avez abandonné les idoles, dit saint Paul, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre du ciel son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous a délivrés de la colère à venir. Réconcilions-nous, mes très chers frères, avec Dieu. N'anticipons pas la vengeance divine, ne disons pas tout le monde au bûcher, quand on aura pris le pouvoir, on va tous vous égouiller. Faites attention, la colère vient. Elle n'a pas besoin de nous. Dieu arrive, notre grand Dieu et Seigneur Jésus-Christ arrive sur les nuées du ciel avec tous ses saints pour accomplir sa vengeance. N'anticipons pas, nous sommes en chemin, réconcilions-nous plutôt avec ce grand juge terrible qui viendra juger les vivants et les morts et le monde par le feu. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à la semaine prochaine, il nous dit, « Moi, dit le Seigneur, j'ai des pensées qui sont des pensées de paix et non d'affliction. » Profitons, mes très chers frères, en toute rationalité, profitons du temps que Dieu nous laisse pour nous réconcilier avec lui. Profitons de ce temps, mes très chers frères, profitons, ayons du bon sens, ayons de la raison, et demandons à Dieu, nous qui ne pouvons rien, demandons-lui que nous soyons constamment en train de méditer ces choses raisonnables, afin que, les mettant en pratique, puisqu'elles lui plaisent, nous puissions les mener grâce à lui, à sa force, à sa grâce toute puissante et irrésistible, par nos actions, nous puissions les mener à leur terme, par leurs actions, par nos actions et par nos paroles, afin que nous puissions mériter d'être un jour avec lui pour l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.